إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue la lecture du livre de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous en sommes aujourd'hui à la page 109, au passage intitulé « La récitation du Coran lentement et clairement en embellissant la voix ». Le shir rahimahullah ta'ala a dit « Conformément à l'ordre d'Allah le Très-Haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran lentement et clairement, sans hâte ni empressement. » Donc conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comme il l'a mentionné en note de bas de page, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite le Coran lentement et clairement. Donc c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait le Coran, se soumettant à l'ordre de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il ne le lisait pas rapidement. Et le shaykh rahimahullah ta'ala va nous donner plus de détails à ce sujet. Il dit, rahimahullah, au contraire, chaque lettre dans sa récitation était prononcée clairement et distinctement de l'autre. Il récitait une sourate si lentement qu'elle prenait plus de temps qu'une autre sourate plus longue. C'est-à-dire qu'une autre sourate plus longue, récitée par autre que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Il disait, on dira à celui qui avait l'habitude de réciter le Coran, lis, élève-toi et récite comme tu le faisais dans le bas monde, car ta place se trouve au niveau du dernier verset que tu liras. Donc ce que l'on voit ici dans le hadith, étant traduit par « celui qui avait l'habitude de réciter le Coran », c'est en arabe le terme « sahibul Coran ». On dira « as-sahibul Coran », que je préférerais traduire par « on dira à l'adepte du Coran ». Car l'adepte du Coran, cela est plus général que la récitation. En effet, les gens de science ont mentionné que cela vise celui qui avait l'habitude de réciter le Coran, mais aussi de le mettre en pratique. Car celui qui ne faisait que le réciter, et ne le mettait pas en pratique, et ne se soumettait pas aux enseignements et aux jugements du Coran, alors celui-ci, il n'est pas concerné par ce hadith. Mais celui qui est concerné, c'est Sahibul Coran, celui qui le récite et qui le met en pratique. Et des gens de science ont dit que cela est spécifique à celui qui le mémorise. Et d'autres ont dit que cela est plus général et englobe tout lecteur du Coran qui était habitué à sa lecture et à sa mise en pratique. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala inspirera à celui qui avait l'habitude de lire le Coran dans ce bas monde la récitation du Coran comme s'il le connaissait par cœur. Donc on dira à sahib al-Qur'an, à l'adepte du Coran, lis, c'est-à-dire lis le Coran. Et ceci, cela lui sera dit lors de son entrée au paradis. Lis et élève-toi, c'est-à-dire élève-toi en degré au paradis. Et récite, c'est-à-dire les récite lentement et clairement. Et c'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith. Comme tu le faisais dans ce bas monde. Ensuite il dit, car ta place se trouve au niveau du dernier verset que tu liras. Donc on voit dans ce hadith le mérite immense de la récitation appliquée du Coran. C'est-à-dire que le musulman s'applique à la prononciation des mots du Coran, qu'il le lise lentement et clairement, et non pas avec empressement. On voit également dans ce hadith le mérite de la mémorisation du Coran, car celui qui le mémorise est d'autant plus concerné que celui qui ne fait que le réciter. Et surtout, on voit dans ce hadith le mérite de la mise en pratique du Coran, car c'est cela qui est visé par sa lecture et sa récitation. Ensuite, il dit, rahimahullah, d'autre part, il allongeait les voyelles lorsqu'il lisait les voyelles longues. Ainsi, il allongeait les voyelles dans « Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Nadid » et tout ce qui y ressemble. Donc on voit que cela faisait partie de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la lecture du Coran. Il s'arrêtait à la fin de chaque verset, comme nous l'avons expliqué précédemment, dans le passage au sujet de la récitation de la Fatiha, verset par verset. On avait vu qu'il fait partie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de s'arrêter à la fin de chaque verset lors de la lecture du Coran et de ne pas les joindre les uns aux autres. On avait mentionné que ceci était une des choses aidant à la concentration et la méditation lors de la récitation. Ensuite, il dit, rahimahullah, parfois il répétait les voyelles, notamment le jour de la conquête de la Mecque, alors qu'il était sur sa chamelle et lisait Sourate la conquête, Sourate al-Fath, d'une voix douce. Abdullah ibn Mughaffil a décrit le tarji' du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme produisant le son suivant. Donc, ils nous ont écrit 3 A. Et dans le livre en arabe, il y a donc écrit 3 alifs avec la petite vague indiquant le med. Donc, ce qui est visé par cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait, il y avait une sorte d'effet de répétition de la lettre lorsqu'il prononçait la voyelle longue. Comme on peut l'entendre lorsque le muezzin fait l'appel à la prière, c'est-à-dire il va y avoir une sorte de vibration dans la voix, et c'est cela qui est visé par le tarjih, comme l'a mentionné le cheikh ici, rahimahullah ta'ala. Et pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez revenir à un professeur de Coran qui vous décrira de manière plus précise la manière correcte de faire cela. Ensuite, il dit, rahimahullah, en outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonnait d'embellir la voix avec le Coran. Embellissez le Coran avec vos voix, car la belle voix donne encore plus de beauté au Coran. Donc on voit à travers ce hadith la recommandation pour celui qui récite le Coran d'embellir sa voix lors de la récitation. Et comment doit-on embellir sa voix? Cela nous est décrit dans le hadith suivant. Lorsqu'il dit, rahimahullah, il disait, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les plus belles voix à la récitation du Coran, et la voix de celui en qui vous sentez la crainte d'Allah lorsque vous l'entendez réciter. C'est-à-dire qu'on ressent dans sa voix le khushu', l'humilité. Et cela nous montre que l'objectif de l'embellissement de la voix est que découle de la récitation cette humilité et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute que celui qui récite ainsi, qui a embelli sa voix avec humilité, alors il sera plus à même de méditer le Coran et sa récitation aura plus d'impact sur son cœur par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahimahullah ta'ala, il ordonnait aussi de psalmodier le Coran. Et ce qui est visé par la psalmodie, ce n'est pas de réciter le Coran en suivant des notes musicales. Car comme les gens de science ont mentionné, ce qui est fait par certains lecteurs à notre époque, qui récitent le Coran en suivant des timbres musicaux, alors ceci fait partie des innovations en religion qui sont rejetées. Et ce n'est pas cela qui est visé par la psalmodie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé. Il a donc dit sallallahu alayhi wa sallam, apprenez le livre d'Allah, ceci est un encouragement à sa mémorisation. Révisez-le constamment, ceci est un encouragement à la révision du Coran. Il ne suffit pas de le mémoriser, mais il faut aussi le réviser afin de ne pas l'oublier. Conservez-le et psalmodiez-le. Par celui qui tient mon âme en sa main, le Coran s'échappe plus facilement de la mémoire que les chameaux attachés à leurs cordes. Donc on voit à travers ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragés à la mémorisation et la révision du Coran. Ensuite il dit, rahimahullah, il disait sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Et donc ce qui est visé par cela, c'est l'embellissement de la voix de la manière que l'on a décrite précédemment. Ensuite il dit, rahimahullah, il disait encore, Allah n'écoute pas une chose plus qu'il n'écoute un prophète qui a une belle voix psalmodier le Coran et le réciter à voix haute. Donc on voit à travers ce hadith que le fait que la personne embellisse sa voix et psalmodie le Coran, c'est une chose qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cela encourage donc le musulman à multiplier la récitation du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, si tu savais qu'hier j'étais en train d'écouter ta récitation, tu as reçu une des voix de Al Daoud. Alors Abu Musa, radiyallahu ta'ala anhu, a répondu, si je l'avais su, j'aurais embelli davantage ma voix et j'aurais récité avec mélancolie. Donc on voit à travers ce hadith qu'Abu Musa, radiyallahu ta'ala anhu, il récitait le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutez sa récitation. Puis il l'a informé de cela et a comparé sa voix à la voix de Daoud, alayhi salam. Car comme vous le voyez, Dans la note 3, en bas de page, ce qui est visé par Al-Dawood, c'est Daoud lui-même, alayhi salam. Et Daoud, alayhi salam, il avait une très belle voix. Et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a comparé sa voix à celle de Daoud, alayhi salam. Alors Abu Musa, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa de sa présence, il lui répondit, si je l'avais su, j'aurais embelli davantage ma voix. Et j'aurais récité avec mélancolie. Et ce, afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse davantage profiter de l'écoute de sa récitation. Et ceci est une preuve que si la personne embellit sa voix lors de la récitation du Coran, dans le but que ceux qui l'écoutent prennent plus de plaisir à son écoute, alors il n'y a pas de mal en cela, et ce n'est pas considéré comme de l'ostentation. Car l'objectif, c'est quoi? C'est d'encourager la personne à écouter le Coran, d'encourager la personne à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela leur facilite l'écoute et la méditation. Et ceci est un point très important à retenir. Car il y a certaines personnes à qui la parole d'Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu pourrait poser problème. Comment réunit-on entre cela et le fait que la personne ne doit rechercher à travers son adoration que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc la réponse est ce que vous venez d'entendre. L'objectif d'Abu Musa radiyallahu ta'ala anhu était qu'il aurait embelli sa voix afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse mieux profiter de l'écoute du Coran. Et non pas pour rechercher les éloges et les compliments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc l'intention de la personne qui fait la différence. Contrairement à celui qui récite le Coran et qui embellit sa voix et améliore sa récitation dans le but que l'on dise que c'est un bon récitateur ou dans le but d'être complimenté et de recevoir les éloges des gens. Alors pour celui-ci, on craint l'ostentation. Quant au fait que l'imam s'applique lors de sa récitation, qu'il embellisse sa voix afin que les gens prennent plaisir à l'écoute de sa récitation du Coran, afin qu'ils puissent mieux méditer et qu'ils profitent de cette récitation, alors il n'y a pas de mal en cela comme nous le démontre ce hadith. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, soufflez à l'imam pour lui rappeler. C'est-à-dire, lorsque l'imam récite le Coran lors de la prière, il est légiféré à ceux qui sont derrière lui de lui souffler s'il lui arrive d'oublier. Il dit, rahimahullah, c'est une sunna prescrite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que de rappeler à l'imam ce qu'il a pu oublier de sa récitation. En effet, une fois lors d'une prière, il, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est arrêté dans sa récitation et n'a pas su continuer. Après la prière, il a dit à Ubay, as-tu prié avec nous? Il lui répondit que oui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, qu'est-ce qui t'a empêché de me rappeler la suite? Donc on voit à travers ce hadith qu'il est recommandé, en cas d'oubli de l'imam d'un verset, ou alors s'il se trompe dans sa récitation, de l'avertir et de lui souffler afin qu'il puisse continuer de réciter. Et est-ce que cela est spécifique aux hommes, ou bien cela est-il permis pour les hommes ainsi que pour les femmes? La réponse est que si la femme prie par exemple chez elle, derrière son mari, derrière son père, son frère ou autre parmi ses maharim, et qu'il lui arrive d'oublier un verset, alors les gens de science ont mentionné que dans ce cas-là, il lui est permis de souffler à son mari, son père ou son frère la suite du verset et de lui le rappeler afin qu'il puisse continuer de réciter. Ensuite, il dit, rahimahullah, cherchez protection auprès d'Allah et crachait faiblement pour chasser les tentations de Satan. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il évoque un sujet important et un fléau qui atteint nombre de personnes dans leurs prières, qui sont les suggestions du diable, qui vient au moment de ta récitation afin de te perturber dans celle-ci, de te faire oublier ce que tu as récité, de t'empêcher de méditer et de te concentrer, en te faisant penser à certaines de tes occupations, ou à des choses mondaines, ou voire même à des choses futiles et sans aucun intérêt. Et beaucoup de personnes sont éprouvées par cela dans leurs prières. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné le remède nous permettant d'obtenir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala et de repousser le diable. Donc le shir rahimahullah ta'ala, il dit ici, Uthman ibn Abi al-As, radiyallahu ta'ala anhu, a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, le diable m'a empêché de prier et de réciter convenablement. Littéralement, il dit, le diable s'est interposé entre moi et ma prière. C'est-à-dire qu'il lui a fait perdre son khushu'. Il lui a fait perdre sa concentration. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, c'est un diable qu'on appelle Khenzab. Si tu sens sa présence, cherche protection contre lui auprès d'Allah et crache faiblement sur ta gauche 3 fois. Uthman ibn Abi al-As, radiyallahu ta'ala anhu, dit ensuite, je l'ai fait et Allah a éloigné ce diable de moi. Donc vous voyez ce remède prophétique contre les suggestions du diable dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à celui qui est dans cette situation de chercher protection contre le diable auprès d'Allah. Tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et tu craches faiblement sur ta gauche 3 fois. Ce qui est visé ici, par le fait de cracher faiblement, c'est un peu plus que de souffler, et moins que de cracher. C'est-à-dire que tu souffles en crachotant, en laissant un peu de salive sortir. Et tu fais cela à 3 reprises, après avoir cherché protection auprès d'Allah contre le diable. Et des gens de science ont mentionné que ceci est légiféré dans le cas où il n'y a personne sur ta gauche. Mais s'il y a une personne sur ta gauche, alors il te convient de prendre un mouchoir, par exemple, ou alors une partie de ton vêtement et de crachoter dedans. Et ce, afin de ne pas importuner la personne qui se trouve à ta gauche. Et si tu n'as rien de cela, qu'il ne t'est pas possible de tirer une partie de ton vêtement et que tu n'as pas de mouchoir, alors le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a mentionné que tu tournes simplement ta tête sur la gauche et que tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Et lorsque le prieur fait cela, il ne doit tourner que légèrement sa tête. Il ne doit pas tourner son corps. Car comme on l'a vu précédemment, lors du chapitre sur l'orientation vers la Qibla, le musulman doit rester tout le long de sa prière orienté vers la Qibla. Donc lorsque cela arrive et que tu cherches protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable, tu ne tournes que ta tête et très légèrement en direction de ton épaule gauche tout en laissant ton corps orienté en direction de la Qibla. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit le ruku', l'inclination. Donc l'inclination, c'est un pilier de la prière, car elle fait partie intégrante de la prière, et la prière ne peut pas être valide sans l'inclination. Il a dit, rahimahullah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait sa récitation, il se taisait un instant. Donc une fois qu'il avait terminé de réciter la surat ou les versets, après surat al-Fatiha, il gardait un léger moment de silence. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit dans la note 4, en bas de page, le silence dont il s'agit ici correspond au temps de reprendre son souffle, selon ce qu'ont estimé Ibn al-Qayyim et d'autres savants, rahimahumullah ta'ala. Donc c'est un léger silence. Ensuite, il levait les mains. Selon les différentes façons mentionnées précédemment, dans le paragraphe, c'est-à-dire dans le passage, la partie, du premier takbir, du début de la prière, takbirat al-ihram. Puis il disait, Allahu Akbar, et il s'inclinait. Donc on a vu, lors du passage sur le premier takbir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il levait ses mains à hauteur des épaules et parfois à hauteur des lobes des oreilles. Que les paumes des mains étaient en direction de la Qibla et que les doigts étaient ni trop écartés ni trop serrés, c'est-à-dire entre les deux. Donc tu lèves les mains de la même manière pour ce takbir, ou bien à hauteur des épaules, ou bien à hauteur des lobes des oreilles. Et ceci, comme on l'a vu, est recommandé. Puis il disait Allahu Akbar. Et ce takbir est un des takbirs que l'on appelle takbiratul intiqal, c'est-à-dire les takbirs que l'on fait lors des changements de position dans la prière, lorsque tu passes de la station debout à l'inclinaison ou à la prosternation et ainsi de suite. Et ces takbirat, elles sont obligatoires. Et elles doivent être prononcées pendant le changement de position. C'est-à-dire que tu ne prononces pas lorsque tu es debout ni lorsque tu es incliné, mais lors de ton changement de position entre la station debout et l'inclinaison. En effet, il y a certains imams, ils font le takbir lorsqu'ils sont debout, notamment ceux qui veulent faire le takbir dans le micro. Il fait le takbir en étant debout. De ce fait, qu'est-ce qu'il se passe? Les fidèles qui sont derrière lui, dès qu'ils l'entendent faire le takbir, ils partent en inclinaison. Et nombre parmi eux s'inclinent ou se prosternent avant lui. Et ceci n'est pas convenable. D'autres imams, ils prononcent le takbir qu'une fois qu'ils sont inclinés. Et ceci également est une erreur. Mais le takbir, il doit être prononcé lors du changement de position, entre la station debout et entre l'inclinaison. Et il en est de même pour les autres takbirs qui ont lieu lors des changements de position durant la prière. Ensuite, il dit, rahimahullah, d'autre part, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la personne qui faisait mal sa prière d'accomplir ces deux choses en disant « Certes, votre prière n'est pas considérée complète tant que vous ne faites pas les choses suivantes. Accomplir les ablutions de la manière qu'Allah vous a ordonné. Ensuite dire « Allahu Akbar ». Proclamer la louange d'Allah et le glorifier. Lire ce que l'on peut du Coran, ce qu'Allah a enseigné et a permis de lire. Puis dire « Allahu Akbar ». S'incliner et mettre ses mains sur ses genoux de façon à ce que les articulations s'immobilisent et se mettent à leur place jusqu'à la fin du hadith. Donc on voit dans ce hadith que l'inclinaison fait partie des piliers de la prière et que le takbir est obligatoire lorsque la personne passe de la station debout à l'inclination. Ensuite, dans la dernière phrase du hadith, on voit une partie de la description de cette inclination, qui est le fait que la personne met ses mains sur ses genoux et que ses articulations s'immobilisent et se mettent à leur place, c'est-à-dire qu'il marque un temps d'arrêt lors de cette inclination. Et le shir, rahimahullah ta'ala, il a développé cela en détail dans les deux chapitres suivants, la manière de faire le recours et l'obligation d'observer un temps d'immobilité pendant le recours. Et nous verrons ces passages dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم